Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette séance du séminaire de l'URMIS, durant laquelle nous aurons le plaisir d'écouter Mathieu Renaud, maître de conférence en philosophie à l'Université Paris 8, rattaché au laboratoire LLCP, Laboratoire des logiques contemporaines de philosophie, donc spécialiste de la philosophie contemporaine politique et qui va nous présenter aujourd'hui une interrogation intitulée Les frontières de la conscience noire, Web Dubois et le voile de couleur. On fonctionnera de manière classique, donc on écoutera Mathieu Renaud environ pendant 1 heure, et ensuite on aura le temps et de la place pour la discussion, les échanges et les questions avec la salle. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui me donne l'occasion d'exposer les premières avancées d'une recherche que je mène actuellement avec une collègue philosophe, elle aussi, de Paris 1, qui est Magali Besson, que certains doivent connaître parmi vous, une recherche qui porte sur l'intellectuel africain-américain W.E.B. Du Bois ou Du Bois. Je sais pas, ça dépend des fois, je ne sais pas quand je dis Du Bois ou Du Bois, donc ça changera. Donc William Edward Burkhardt Du Bois, né en 1868 dans le Massachusetts et mort en 1963 à l'âge de 95 ans au Ghana, et que vous voyez sur les photos ici. On réalise ce travail en vue de la publication aux éditions Amsterdam d'un petit ouvrage introductif sur Dubois pour une nouvelle collection intitulée Les penseurs de l'émancipation, et on a donné comme titre provisoire à ce tout petit livre à venir W.E.B. Dubois, Double conscience et conditions raciales. Double conscience et conditions raciales, car on va en effet centrer nos analyses sur le concept de double conscience du noir américain chez Dubois, qu'il introduit dans un article publié en 1897 dans la revue The Atlantic, un article intitulé Strivings of the Negro People, Les luttes du peuple noir, article repris et remanié dans son ouvrage de 1903, son ouvrage le plus connu et le seul traduit à ce jour en français, qui est Les âmes du peuple noir. Donc vous voyez ici la version anglaise, une des innombrables différentes versions anglaises et la version française aux éditions La Découverte, traduit par Magali Besson, justement. Alors, c'est donc le premier chapitre de ce livre, c'est le texte que j'ai envoyé, fait circuler pour ce séminaire et qui s'appelle dans le livre Sur nos luttes spirituelles. Cette notion de double conscience chez Dubois, elle a eu un drôle de destin, car elle n'apparaît plus dans ses écrits après 1903. C'est la seule occurrence, enfin dans l'article et dans le chapitre qui est la reprise de l'article, elle apparaît plus, nominalement du moins, et pourtant elle a fonctionné comme un trope qui a irrigué la pensée africaine-américaine et plus largement la pensée noire tout au long du XXe siècle. Alors je vais revenir à plusieurs reprises sur cette notion de double conscience dans cette présentation. Mais étant donné la thématique de ce séminaire, j'ai voulu prendre pour fil rouge deux concepts ou deux concepts métaphores qui sont chez Dubois intimement liés à celle de double conscience, à savoir le concept de ligne de partage des couleurs, la color line ou ligne de couleur, color line, et plus encore, et plus énigmatique au départ, le concept de voile, le veil que Dubois écrit le plus souvent avec une majuscule. Ce qu'indiquent ces derniers, voile et ligne de partage des couleurs, c'est, on le verra, que les frontières raciales, pour Dubois, sont toujours à la fois des frontières sociales ou matérielles et des frontières psychiques, ou pour reprendre ces termes, spirituelles. Des frontières extérieures et intérieures, réelles et imaginaires, avec des effets de circulation entre les unes et les autres. Et c'est précisément, et je reviendrai là-dessus, l'intériorisation de la ligne de division entre blanc et noir qui engendre, selon lui, le dédoublement, la double conscience, le clivage de la conscience africaine-américaine. Alors, j'en dis pas plus pour le moment, je vais y revenir. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ça reste très exploratoire, va rester très exploratoire, tâtonnant. C'est vraiment un début de recherche. Et je vous prie de m'excuser si je suis par moments trop allusif ou si au contraire certains de mes arguments sont redondants, pas assez synthétiques. Et vous verrez aussi que je vais beaucoup citer Dubois pour rester au plus près du texte de ce dernier. Alors, dans la préface aux âmes du peuple noir, qui a été écrit donc à l'orée du XXe siècle, Dubois a ces mots qui, du fait de leur nature quasi-prophétique, restent sûrement les plus célèbres qu'il ait prononcés. Dubois dit ceci, « Le problème du XXe siècle, et vous l'avez peut-être déjà entendu, le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs. » Cette formule, elle avait déjà été employée dans le discours aux Nations du Monde, sur lequel s'était ouvert à l'été 1900 le premier congrès panafricain à Londres, texte, discours aux Nations du Monde, dont Dubois était l'un des signataires. Dubois le répète au tout début et à la toute fin du deuxième chapitre des âmes du peuple noir, un chapitre qui traite de la guerre de sécession et des années qui avaient suivi l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la période de la reconstruction, donc plus ou moins de 1865 à 1877. Et il précise alors son propos en indiquant déjà que l'étendue, au sens propre, au sens spatial, géographique du terme, du problème de la ligne de partage des couleurs ne se limite pas aux États-Unis et que c'est un problème littéralement mondial. Il dit ceci, le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs, de la relation entre des races d'hommes plus sombres et des races d'hommes plus claires, en Asie, en Afrique, en Amérique et sur les îles océaniques. Il faut être ici attentif non seulement à l'objet du problème soulevé par Dubois, la ligne de partage des couleurs, mais aussi à la signification que recouvre chez lui le terme même de problème. Car ce que dit Dubois, c'est pas seulement qu'il y a un problème racial, aux États-Unis comme ailleurs, il dit aussi que le noir est ce problème, qu'il l'incarne, et qu'il l'incarne non seulement parce que le blanc, l'autre, rejette la faute sur lui, ou l'accuse de tous les maux, le méprise, mais aussi, pour Dubois, parce que le noir vit ce problème dans sa chair, et surtout s'appréhende, parce qu'il s'appréhende lui-même en tant que problème. Pour le noir, la vraie question, dit Dubois, dès l'entame du premier chapitre du livre, est la suivante. Quel effet ça fait d'être un problème ? Où l'on voit ici Dubois, bien avant Frantz Fanon et d'autres, poser la question de l'expérience vécue, de l'expérience subjective du racisme sur ses victimes. Même si les termes de problème et d'expérience ici seraient à entendre non seulement, du point de vue philosophique, non seulement en un sens phénoménologique ou existentialiste, comme ça sera le cas chez Fanon, ce qui, pour le coup, pour Dubois, serait anachronique du point de vue de l'histoire des idées, mais au sens de la philosophie pragmatiste américaine de William James, John Dewey et d'autres qui ont largement influencé Dubois. Je passe là-dessus, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Par ailleurs, affirmer que le problème principal, c'est le problème de la ligne de partage des couleurs et que le noir est ce problème, c'est déjà sous-entendre que le problème en question, c'est aussi celui de l'introjection ou de l'intériorisation de la ligne de couleur dans la psyché de l'individu racisé, une ligne qui le scinde, le divise intérieurement. Et ça, je vais y revenir à plusieurs reprises aussi. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière occurrence que je cite. En 1904, l'année suivant la publication des âmes du peuple noir, Dubois répond à Max Weber qui l'avait invité à rédiger un essai sur les relations entre problèmes raciaux et problèmes de classe aux États-Unis. Et Dubois disait encore à Weber, « Je suis absolument convaincu que le problème de la ligne de couleur sera le problème le plus fondamental des temps à venir, ici et partout dans le monde. » Alors, il ne me semble pas inutile de revenir un instant sur la généalogie du concept de ligne de partage des couleurs. Car autant les concepts de double conscience et de voile vont vraiment être des créations de Dubois, autant Dubois hérite des thématisations de la ligne de couleur ou de la color line dans la pensée américaine de la fin du XIXe siècle. Une notion qui, du reste, a aussi traversé le XXe siècle, ligne de partage des couleurs, et traversé l'Atlantique. Pour preuve, elle donnait, il y a un an encore, son nom en anglais à une exposition au musée du Quai Branly qui était intitulée « The Color Line, les artistes africains-américains et la ségrégation ». Alors, pour revenir aux origines de ce terme, c'est un terme qu'on retrouve utilisé au tournant du 19e et du 20e siècle par des auteurs blancs comme par des auteurs noirs, par exemple par le romancier blanc, c'est l'image à gauche, George Washington Cabell, qui était originaire de Louisiane, qui était un critique des lois Jim Crow, de la ségrégation, et voilà, qui avait publié un essai intitulé « The Negro Question » en 1903, la même année que « Les âmes du peuple noir », dont un chapitre était précisément intitulé « Qu'est-ce qui fait la ligne de couleur ?» Alors, petite digression ici, on considère souvent le travail romanesque de George Washington Cabell, qui est hanté, en fait, qui ne revient en permanence sur le thème du métissage, comme une préfiguration des écrits de Faulkner, ce qui me permet de dire, enfin, de parler d'un roman que j'aime beaucoup, qui est Absalom, Absalom, de 1936 de Faulkner, qui devrait, selon moi, être un point de référence pour toute discussion sur la signification de la race comme réalité sociale et comme réalité fantasmatique. Bon, mais à vrai dire, j'avance ça un peu gratuitement, je n'ai pas fait d'analyse plus poussée du livre, mais je pense qu'il y aurait, et il y a eu des travaux, bien sûr, sur le sujet, mais je pense que c'est un livre extrêmement important pour comprendre ce que signifiait la race dans les suds des États-Unis, et sûrement pas seulement au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Alors, si on remonte un peu dans le temps, on peut localiser ce qui est, sinon la première occurrence, du moins ce qui semble être la première véritable méditation sur la ligne de partage des couleurs, c'est dans un article de 1881 d'une autre figure majeure de l'histoire africaine-américaine, ex-esclave et militant abolitionniste, Frederick Douglass, que vous voyez sur la photo de droite, et auteur de ce qui reste aussi le plus célèbre, des récits d'esclaves, des récits autobiographiques d'esclaves. L'article en question s'intitule précisément « The Color Line » et je vais m'y arrêter un instant. Douglass commence par dire que le préjugé de race, à un moment ou un autre, frappait toutes les nations. Et bizarrement, à première vue, qu'est-ce qu'il cite ? Douglass, il cite les Saxons, qui, longtemps après l'invasion normande, continuait, dit-il, d'être considéré comme une race assujettie en Angleterre. Cet exemple tiré de l'histoire de l'Europe peut paraître donc assez étrange, assez malvenu, déplacé, et pourtant, quand on regarde un peu, c'était un thème commun de la pensée africaine-américaine de la fin du XIXe siècle, dans laquelle se détachait une figure, la figure du Black Saxons, du Saxon noir. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait dans un... Bon, c'est quelque chose surtout que j'annonce, mais là, sur lequel j'aimerais bien travailler un peu plus. C'est les Black Saxons, c'est quelque chose dont parlait aussi William Henry Ferris dans son livre « The African Abroad » de 1909. Je dis ça seulement en passant, c'est encore une digression, après j'arrête les digressions, pour signaler qu'on pourrait, à partir de là, je pense, retracer une sorte de généalogie décentrée de ce que Michel Foucault, dans son cours de 1976 « Il faut défendre la société », désignait comme un discours de la guerre des races, mais discours de la guerre des races qui exprimait, dit-il, le point de vue des vaincus, le point de vue des races assujetties, et qui, discours de la guerre des races qui n'aurait été que plus tard converti ou traduit biologiquement pour donner lieu au discours du racisme scientifique, qui pour le coup était un discours des dominants. Or, selon Foucault, ce schéma de la guerre des races aurait été formulé notamment dans un ouvrage de l'historien Augustin Thierry, « Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands » en 1839, ouvrage justement dont se recommandaient, au tournant du XIXe et du XXe siècle, les auteurs africains-américains, dont Douglass en particulier, qui revient et qui cite Augustin Thierry à plusieurs reprises et d'une manière extrêmement positive. Et ça leur servait, le schéma de la guerre des races chez Augustin Thierry et d'autres, ça leur servait précisément pour lutter dans leur lutte contre le racisme. Ce qui tendrait à montrer que la guerre des races, comme discours, aurait continué à opérer comme discours subalterne, justement, dans la lutte contre le racisme. Ce qui participerait à ce que j'appelle une contre-généalogie de la race, encore largement à écrire, à faire, qui serait une histoire des usages antiracistes de l'idée de race, et dont Dubois serait une figure très importante aussi. Bon, je reviens au texte de Douglas. Ce qu'affirme Douglas, c'est que l'abolition de l'esclavage aux États-Unis n'a nullement, enfin il n'est pas le seul à dire ça bien sûr, n'a nullement signé la fin de la domination raciale. Et il écrit « Des profondeurs de l'esclavage ont émergé le préjugé et la ligne de couleur. Celle-ci, la ligne de couleur, est suffisamment large et suffisamment noire pour expliquer toutes les influences malignes qui assaillent les millions d'hommes récemment émancipés aujourd'hui. » Entendez, fin de citation. Entendez ici, la ligne de couleur, pour Douglas, ne renvoie pas seulement au trait fin et quasi invisible qui sépare les races. La ligne de couleur est conçue ici comme une frontière épaisse, idée qui a bien sûr des résonances particulières dans un pays dans lequel, avec la conquête de l'Ouest, le terme de frontier, au sens de marge, au sens de confins, était si chargé de signification. Pour Douglas, la ligne ou la frontière de couleur s'étend, elle englobe en fait tout le monde africain-américain aux États-Unis, donc d'où sa couleur, elle-même noire. Pour reprendre librement une notion devenue courante, un quasi-topos, dans la société américaine, l'africain-américain, pour Douglas, est par définition un homme frontière. Douglas poursuit ainsi, il dit ceci, « La fonction de la couleur dans la ligne de couleur est une fonction tout à fait évidente et subordonnée. La couleur désigne simplement les objets de l'oppression, de l'insulte et de la persécution. Pour Douglas, la couleur, ce n'est rien d'autre que la couleur noire, ce n'est rien d'autre que le signe, que la marque qui permet de les reconnaître. Il poursuit, la couleur est assez innocente, mais les choses à laquelle elle est couplée la rendent haïssable. L'esclavage, l'ignorance, la stupidité, la servilité, la pauvreté sont des conditions indésirables. Quand elles cesseront d'être couplées avec la couleur, aucune ligne de couleur ne sera plus tracée. » Autrement dit, ici, Douglas vide la couleur noire de tout contenu, de toute substance. La couleur n'est rien d'autre que ce qui permet de tracer la ligne, ce qui permet de définir, au sens étymologique, de poser une limite, finis, comme dans le mot confin, de définir et de définir l'autre, celui qui habite au-delà de cette ligne, comme inférieur. La couleur est dénuée de toute autre propriété. Je reviens maintenant à Dubois. Dubois reprend donc cette notion de ligne de couleur, ligne de partage des couleurs, mais il l'approfondit via la médiation d'un autre concept ou métaphore que j'ai énoncé, avec lequel elle fonctionne en couple, c'est le concept de voile. Alors, il l'utilisait déjà avant les âmes du peuple noir. J'ai retrouvé un texte qui date de 1897-1898, la période où Dubois étudiait la population africaine-américaine de Philadelphie, travail qui allait donner lieu à la publication de son livre. Il avait déjà écrit une thèse sur l'histoire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques. C'était une thèse en histoire de Harvard. Ça, je pense pas qu'il y ait d'autres livres entre-temps. Son deuxième livre, The Philadelphia Negro, un ouvrage dont récemment Aldon D. Morris a affirmé qu'il constituait une origine refoulée car noire de la discipline sociologique. Je n'ai pas lu le livre, il faut voir dans quelle mesure ça tient. Dans la thèse défendue par Morris dans ce livre, The Scholar Denied, W.E.B. Du Bois and the Birth of Modern Sociology, qui en gros dit, Dubois est l'inventeur de la sociologie, en tant que discipline, mais du fait de sa couleur, du fait de sa race, c'est une origine refoulée. En tout cas, à cette même période, donc, Dubois a rédigé un très court essai qui n'était pas publié, qu'il l'a été après, ça fait que 3-4 pages, qui s'intitule « Beyond the Veil in a Virginian Town »,« Au-delà du voile dans une ville de Virginie ». De cette petite ville imaginaire, donc, qu'il nomme Farmville, il décrivait la topologie urbaine dans les termes suivants. Dubois disait donc « La chose la plus curieuse à propos de Farmville est son voile. » le grand voile, non pas fin, transparent et soyeux, mais noir, sinistre, à l'instar d'un mur. Partout un voile de séparation courant à travers la ville et la divisant, 1200 blancs de ce côté et 1200 noirs, au-delà de ce voile. La doctrine des classes, dit alors Dubois dans ce texte, Dubois dont la conversion au marxisme sera bien plus tardive, enfin Dubois se convertira au marxisme dans les années 30 avec la publication de son grand livre sur la guerre de sécession et sur la période de la reconstruction, son livre qui s'appelle Black Reconstruction in America, sur lequel je reviendrai rapidement à la toute fin de cette présentation. Dubois dit alors à cette époque, la doctrine des classes ne peut rendre compte de cette puissante compartimentation qui fait vivre à ce petit hameau de Virginie ce qu'il appelle une double vie, en sorte qu'à toute remarque, à toute nouvelle portant sur un des habitants de la ville, la première réaction est toujours une question, cette personne était-elle blanche ou de couleur ? On voit déjà ici apparaître dans ce texte la problématique du dédoublement sous la forme d'un clivage spatial et de son corollaire social, l'absence de contact entre les deux populations. Et Dubois conclut ce petit texte en disant ceci, « De la vie de ce côté-ci du voile, le côté blanc, vous connaissez presque tout, mais au-delà du voile se tient un pays inconnu, une terre de nouveautés, de changements, d'expérimentations, d'espoirs sauvages et de sombres réalisations. Et ce monde encore inexploré, ce monde au-delà du voile, c'est le monde noir. » C'est ce monde que Dubois se propose de faire découvrir à son lecteur, et son lecteur blanc notamment, dans les âmes du peuple noir, comme il le signale dans sa préface, où il dit ceci, « J'ai tenté d'esquisser ici, à très vague et incertain, le monde spirituel dans lequel vivent et luttent 10 000 milliers d'Américains. » À cette différence près, que le noir est décrit ici comme celui qui vit non pas au-delà du voile, mais au contraire dans le voile, ce voile qui le dérobe à la vue des Blancs, les Blancs qui sont condamnés par leur faute même à ignorer tout de ce qu'est réellement le noir. Et ce concept de voile, cette métaphore du voile, à la différence de la seule notion de ligne de couleur, permet à Dubois de montrer que les relations entre blanc et noir, de part et d'autre du voile, ne sont pas symétriques. Car les Noirs, certains d'entre eux, éduqués, ceux qui sont éduqués en tout cas, c'est encore un thème très, très important, la question de l'éducation dans les âmes du peuple noir, ces Noirs-là pourront malgré tout voir à travers le voile, et parfois même, dit Dubois, ils pourront s'en extraire temporairement pour observer le monde des Blancs qui, eux, vivent au grand jour. Telle est l'expérience que Dubois avait faite lui-même, Dubois diplômé de Harvard, comme j'ai déjà dit, et qui, dans les âmes du peuple noir, Dubois qui ferait retour au sien, se promettant désormais de lever le voile. Je le cite, « Quittant alors le monde de l'homme blanc, j'ai pénétré dans le monde du voile, j'ai soulevé celui-ci pour que vous puissiez entrevoir ses replis les plus secrets, la signification de sa religion, la passion de sa douleur humaine, le combat de ses grandes âmes. » Et il finit en disant « Ai-je besoin d'ajouter que moi, qui vous parle ici, je suis de la chair et du sang de ceux qui vivent dans le voile ?» Il y a chez Dubois une double logique du voile, plus complexe que celle de la ligne de couleur, car le voile opère à la fois simultanément ou dialectiquement comme un mur infranchissable. Il signifie alors une dualité et une contradiction en apparence indépassable entre les mondes blancs et noirs. Mais le voile fonctionne aussi comme un opérateur plus flexible de dissimulation et de révélation, et ainsi malgré tout de relation entre les deux mondes, qui laisse entrevoir ce que cherche ici Dubois, c'est-à-dire la possibilité future d'une réconciliation. Comme l'écrit Howard Winant, le voile est une métaphore chez Dubois est une métaphore complexe de la dynamique raciale. Le voile est synonyme à la fois de barrière et de connexion entre blanc et noir. Dialectique qui, chez Dubois, est indissociablement une dialectique entre le monde intérieur ou spirituel dans ses termes et le monde extérieur, le monde social. Car le voile, je cite à nouveau Winant, opère à la fois au niveau personnel ou intrapsychique et au niveau institutionnel ou structurel de l'interaction sociale. Le voile évolue dans l'histoire. Il exprime à la fois le conflit, l'exclusion et l'aliénation inhérents à la dynamique de la race et du racisme, mais il exprime aussi l'interdépendance, la connaissance de l'autre et les désirs entravés qui caractérisent leurs relations. Le voile ne divise pas seulement le moi individuel, il fissure aussi la communauté, la nation, la société entière. Fin de citation. Et on pourrait même parler de deux dialectiques enchevêtrées ici, au sens où les variations de la ligne ou de la frontière de couleur viennent sans cesse reconfigurer chez le noir la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, l'individuel et le supra-individuel, la conscience et le monde extérieur. Alors, on pourrait se demander d'où Dubois tire cette métaphore du voile. Peut-être est-ce du philosophe Ralph Waldo Emerson, le père du transcendantalisme, qui, en 1841, dans son essai The Oversoul, distinguait les hommes, enfin, les philosophes parmi les hommes, parmi les philosophes en particulier, ceux qui regardaient le monde dans ces termes depuis l'extérieur du voile, comme des spectateurs, et ceux qui parlaient depuis l'intérieur du voile, à partir de leur propre expérience. Et il utilisait l'expression en anglais « from within the veil », les mêmes formules que chez Dubois. Mais les références religieuses d'Emerson elles-mêmes, parce que chez Emerson, dans ce texte-là, le premier à parler depuis l'intérieur du voile, c'est Jésus, suggère que c'est peut-être dans la Bible elle-même que Dubois est allé puiser son inspiration, ou en tout cas une partie de son inspiration. Un Dubois qui est critique, et on le voit déjà dans Les âmes du peuple noir, critique des institutions religieuses qui ont appuyé l'esclavage et la domination blanche, mais un Dubois aussi tout à fait conscient du rôle et du pouvoir du religieux dans la vie de la communauté noire américaine. Suffirait à témoigner de cette source biblique chez Dubois la conclusion du dernier chapitre des âmes du peuple noir, où Dubois dit ceci: « Si quelque part dans ce tourbillon et ce chaos de choses, il existe un Dieu éternel, un Dieu de pitié tout autant que de puissance, quand il, avec une majuscule, en décrétera le temps venu, l'Amérique déchirera le voile et ceux qui en sont prisonniers iront libres. » Comme le note Gerald Savory, si on met de côté les recommandations de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qui en appelait les femmes à revêtir le voile, la référence la plus fréquente au voile dans la Bible concerne le temple de Jérusalem, où, dit-on, un large voile, parfois est même mentionné un double voile, séparait le Saint des Saints de l'espace réservé au public. Seul le grand prêtre avait le droit de franchir ce seuil, de pénétrer dans le voile pour prier au nom du peuple. Or, à l'époque de Jésus, les masses étaient de plus en plus opprimées par les hommes religieux au pouvoir, et la Bible raconte que quand il mourut sur la croix, je cite la Bible, « le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas », signant ainsi l'abolition des barrières entre les hommes, en sorte que plus aucun homme ne pouvait être l'esclave d'un autre. C'est donc ce récit du voile déchiré que Dubois aurait fait sien pour dépeindre l'avenir du temple américain et un récit qu'il aurait en quelque sorte détourné les opprimés, esclaves ou ex-esclaves noirs, occupant désormais chez Dubois la place du sacré lui-même, au sens où ils habitent, c'est eux qui habitent dans le voile. Alors Dubois file la métaphore dans le premier chapitre, la métaphore du voile dans le premier chapitre des âmes du peuple noir sur nos luttes spirituelles. Il commence par raconter ce qu'on peut désigner comme son expérience primitive du racisme lorsqu'enfant, à l'école, une petite fille blanche refusa de jouer avec lui. Il dit ceci. « Alors il m'est apparu avec une soudaine certitude que j'étais différent des autres, ou comme eux, peut-être, dans mon cœur, dans ma vie et dans mes désirs, mais coupé de leur monde par un immense voile. » Sa première réaction de défense fut de répondre par le mépris envers tout ce qui existait au-delà du voile. Il dit ceci, « Je n'eus plus aucune envie de déchirer le voile ou de me glisser au travers. » Mais bientôt, poursuit-il, ce beau mépris commença à s'effilocher et Dubois se lança à la conquête d'un monde qui réservait toutes ses opportunités aux Blancs. Mais ses camarades noirs, plus noirs que lui en tout cas, tendaient quant à eux à se renfermer, dit-il, dans une haine silencieuse du monde pâle. Il fallait en convenir, les murs étaient, je cite encore, « implacablement étroits, hauts et impossibles à escalader pour les fils de la nuit ». C'est à ce moment, donc, après avoir invoqué le motif du dualisme, qui est partout hein, dans les âmes du peuple noir, motif de la scission entre le monde blanc et le monde noir, que Dubois introduit le thème de la double conscience, le terme cette fois-ci de la scission interne de la conscience noire. Et je vais citer le paragraphe dans son intégralité, qui est devenu en fait qui est peut-être le plus cité de Dubois, qui est devenu un classique de la pensée africaine-américaine, et je vais vous le montrer en même temps. Dubois dit donc ceci, « Après l'Égyptien, le Grec et le Romain, le Teuton et le Mongol, le Noir est une sorte de septième fils, né avec un voile et doué de double vue, double sight, dans ce monde américain, un monde qui ne lui concède aucune vraie conscience de soi, mais qui, au contraire, ne le laisse s'appréhender qu'à travers la révélation de l'autre monde. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère, je sais plus, qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. » Ce que Dubois nomme donc la double conscience, c'est le produit de l'intériorisation par le Noir du regard que le Blanc porte sur lui, intériorisation qui le conduit à se mépriser lui-même et à mépriser les siens. Le Noir voit et se voit lui-même simultanément avec ses propres yeux et avec les yeux du Blanc. Or, du point de vue de ce dernier, du point de vue du Blanc, la proposition « l'Américain est blanc » est une tautologie. Dès lors, le noir américain ne peut éprouver sa condition « américain et noir » que comme une contradiction intime. La ligne de couleur s'incarne dans ce « et » lui-même, « américain et noir », au sein de la conscience, qu'elle vient scinder en deux parties irréconciliables. Car en étant américain, le noir américain ne pourrait pas être noir, car l'américain, normalement, doit être blanc. Cette fausse dualité, reposant sur la prémisse de la blanchité comme norme de l'américanité et comme norme de l'humanité, caractérise, dit Dubois, l'histoire du noir américain tout entière. Cette histoire, je cite encore, est l'histoire de cette lutte, de cette aspiration à être un homme conscient de lui-même, de cette volonté de fondre son moi double en un seul moi meilleur et plus vrai, sans que dans cette fusion, il ne perde aucun de ses deux anciens moi. Presque un demi-siècle plus tard, dans Peau noire, masque blanc, Fanon prolongera ses réflexions sans avoir connaissance, hein, a priori, du texte de Dubois, mais il y a des circulations, d'autres types de circulations via la littérature africaine-américaine, via des auteurs comme Richard Wright, par exemple. Et Fanon va rejouer d'une autre manière ce thème de la double conscience en pensant le clivage intime de la conscience racisée, et il va la penser donc à l'aide des armes théoriques que va lui fournir la psychanalyse et la psychiatrie, et notamment le concept psychanalytique d'identification, pour penser l'identification du noir au blanc. Mais à ce propos, on peut se demander si Dubois lui-même ne s'inspirait pas déjà de la psychiatrie de son temps pour penser la double conscience de l'Africain-Américain. Alors, il est vrai que dans ces années-là, les années 1880-1890, ce thème de la conscience fragmentée, du sujet divisé ou de la double conscience de manière générale, c'était devenu un lieu commun dans les cercles intellectuels, un thème qui pouvait puiser dans une longue tradition littéraire, la littérature du double. On peut citer quelques œuvres que Dubois, vu sa culture, ne risquait pas d'ignorer. Par exemple, pour les plus connus, Frankenstein de Mary Shelley, 1818, Die Doppelgänger de Hoffmann, 1821, Le double de Dostoïevski, 1846, L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde, 1866, ou encore Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde en 1890. Mais cette mode du double, elle n'était pas étrangère non plus à cette époque, à la prolifération dans le champ psychiatrique de travaux venus en particulier de France sur le phénomène des personnalités dissociées. Je vais faire un petit détour par une autre œuvre de la littérature africaine-américaine avant de venir à Dubois, un texte publié fin 1902, début 1903 dans une revue, donc même époque que Les âmes du peuple noir, par l'écrivaine africaine-américaine Pauline Hopkins. Année donc de publication par Pauline Hopkins de son roman Of One Blood, qui raconte l'histoire d'une certaine Royal Briggs, étudiante en médecine, qui ne s'était jamais souciée du fait qu'elle était noire, mais qui, à l'occasion d'un voyage archéologique en Éthiopie, plonge dans sa personnalité profonde, en traverse les couches archéologiques, et une métaphore archéologique de la psyché, sans avoir lu Freud, mais qu'on retrouvera chez Freud également, on traverse les couches archéologiques pour découvrir son moi noir enfoui. Alors pourquoi je cite cet exemple ? Parce qu'au début du livre, Hopkins fait référence à un ouvrage abordant, dit-elle, dans ces termes, le grand domaine des nouvelles découvertes en psychologie, un ouvrage soi-disant intitulé, selon elle, « The Unclassified Residuum », le résidu confidentiel. Ouvrage qu'elle attribue à un psychiatre de renom, Alfred Binet, qui, de fait, a priori, d'après ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et puis d'après ce que j'ai lu chez d'autres interprètes, ils n'ont pas trouvé non plus, Alfred Binet n'a jamais écrit ce livre, Le résidu confidentiel. Donc c'est une fausse référence ici, mais il y a pourtant bien des références psychiatriques dans ce texte-là, car le sous-titre du roman d'Hopkins, The Hidden Self, le moi caché, nous met sur une piste. Cette piste, c'est simplement un article publié en 1790 par le philosophe pragmatiste américain William James, un article publié dans les pages du très populaire Scribner's Magazine, et qui est en fait un article de William James sur l'ouvrage d'un autre grand psychiatre français, Alfred Janet. Cet ouvrage, c'était « L'automatisme psychologique ». Et James, je dis ça parce que James, le titre de l'article de James dans cette revue, c'était justement « The Hidden Self », le moi caché. Ce qu'avait révélé Janet dans ce texte, selon James, c'est la possibilité d'une coexistence, pour la première fois selon James, la possibilité d'une coexistence et non seulement d'une alternance chez un même individu de personnalités multiples s'excluant mutuellement. Bon, ce qui est aussi devenu un thème commun dans le cinéma, par exemple. Janet disait ceci, James disait ceci, peu de choses sont aussi curieuses que ces relations d'exclusion mutuelle, dont toutes les nuances existent, entre les multiples consciences partielles. Or, il est fort probable que Dubois, qui était un élève de James à Harvard et qui était devenu l'ami de... Dubois et James avaient nourri des relations d'amitié. Et d'ailleurs, Dubois devait faire une thèse en philosophie. C'est James, le philosophe, qui lui a dit d'aller vers une autre direction qui n'aurait pas de place pour lui. Et il a fait une thèse en histoire. En tout cas, Dubois connaissait nécessairement cet article et d'autres textes sur la question. Mais comme le souligne Shamoun Zamir dans un autre texte, dans un autre livre qui est vraiment une des meilleures choses que j'ai lues sur Dubois, qui est un livre qui s'appelle Dark Voices, W.E.B. Du Bois and American Thought. il ne faudrait pas en inférer, selon Chamoun Zabir et Samir, que Dubois s'est contenté de transposer sur le plan des relations raciales les réflexions que James avait développées sur le dédoublement de la conscience à partir des expériences psychopathologiques, mais aussi d'ailleurs chez James de l'expérience religieuse. Et on pourrait trouver des sources du thème de la double conscience également chez Ralph Waldo Emerson, qui utilise le terme double conscience dans son essai Le transcendantaliste. Enfin, les relations de James à la philosophie américaine et à la philosophie américaine pragmatiste, en tout cas, sont essentielles pour comprendre son parcours et la manière dont il aborde la question raciale. Mais Zamir, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est pas juste une transposition, car chez James, la double conscience restait une sorte de phénomène transhistorique, indépendant des conditions sociales et politiques dans lesquelles il se produit, alors que Dubois pense la double conscience immédiatement comme un effet contingent des rapports de pouvoir gouvernant la société américaine structurée par le privilège de couleur. Un effet du privilège de couleur, un effet de la ligne de partage des couleurs. Pour Dubois, donc, la double conscience de l'Africain-Américain n'est pas, bien sûr, une condition atemporelle, existentielle, atemporelle du noir américain. C'est un phénomène qui est indissociablement psychologique et politique et un phénomène situé historiquement. Reste que dans cette perspective, on pourrait dire parapsychiatrique, la double conscience n'en reste pas moins envisagée comme un phénomène essentiellement négatif, psychopathologique, et donc comme une forme d'aliénation. Alors à ce stade, ça doit vous paraître normal, c'est normal à première vue, c'est ce qui ressort assez explicitement des passages de Dubois que j'ai cités, donc la double conscience comme aliénation. Mais on verra plus tard, et en fait, j'essaierai de montrer à la fin de cette présentation, que cette conception négative de la double conscience n'épuise pas la compréhension que Dubois a du phénomène de la double conscience. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, il y a une autre source à la conception de la double conscience, dont on aurait pu là encore montrer que Dubois la partage avec Fanon pour d'autres raisons, enfin, chez Fanon via d'autres médiations. Cette source, c'est la philosophie de Hegel, dont vous avez déjà, sans doute déjà vu le visage, toujours cette même, presque toujours cette image. Quoi. Plus précisément, l'ouvrage de Hegel, l'ouvrage de 1807, La phénoménologie de l'esprit. À une époque où en Europe, enfin c'est devenu le texte, bon c'est l'histoire de la philosophie, mais un des textes les plus célèbres de Hegel maintenant dans le domaine philosophique, mais en Europe, personne ne lisait La phénoménologie de l'esprit à cette époque-là, les gens se concentraient sur la logique de Hegel, il n'y a que les hegeliens américains qui avaient porté une certaine attention à ce texte-là. Or, Dubois était très au fait de la philosophie allemande, haute source majeure de sa pensée. Entre 1892 et 1894, Dubois avait voyagé en Europe et étudié à Berlin. D'ailleurs, les liens entre la... C'est ce que dit un peu Paul Gilroy dans Il le monde dans l'Atlantique noir, mais il y a tout un travail à faire sur les liens entre les Africains-Américains et l'Allemagne. Enfin, chez Douglas aussi, c'est important, et chez d'autres. Donc entre 1892 et 1894, Dubois avait voyagé en Europe, il avait étudié à Berlin et découvert la puissante tradition de l'historiographie allemande, de la philosophie de l'histoire allemande dont Hegel était l'un des représentants avec Herder et d'autres, des philosophes qui partageaient une thèse qui était en somme que tous les peuples, toutes les nations, en un sens aussi au sens romantique et ethnique du terme, tous les peuples, toutes les nations avaient une contribution propre à faire à l'histoire de l'humanité. C'est cette thèse que Dubois avait fait sienne dans son célèbre essai de 1897 « The Conservation of Races », qu'on peut traduire par la conservation ou la préservation des races, en soulignant, disait Dubois, que la race noire avait un message spécifique, une mission singulière à accomplir avant d'eux et précisément afin d'eux pouvoir se fondre ensuite dans une humanité réconciliée. Pour atteindre à l'universel, il fallait d'abord qu'elle remplisse sa mission particulière. Vision ethniciste, vision racialiste, d'un certain point de vue, dont Dubois allait peu à peu s'éloigner, mais qui n'a pas disparu au moment de la rédaction des Âmes du peuple noir. Qui plus est, la philosophie de Hegel était particulièrement en vogue dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle, où, avec les travaux d'abord avec les travaux de l'école des Hegeliens de Saint-Louis, mais pas seulement, en fait, après toute la, à Harvard aussi. Hegel, en tout cas le Hegel idéaliste, hein, pas le Hegel matérialiste de Marx, le Hegel était idéaliste était perçu comme un prophète de l'exceptionnalisme américain, parce que ce que Hegel aussi avait déclaré quelque part, l'Amérique c'est le pays de l'avenir, parce que l'esprit chez Hegel, avait la procession de l'esprit, ça allait bien sûr de l'Orient vers l'Occident, il s'était arrêté, incarné en Europe, et il allait poursuivre son s'incarner dans le peuple américain. Bon, ça plaisait beaucoup aux philosophes américains. C'était Hegel, le philosophe de l'esprit, il était devenu le philosophe de l'esprit de la nation américaine en devenir. Dubois, lui, avait suivi des cours sur Hegel à Harvard, mais c'est dans une toute autre direction que celle de l'exceptionnalisme américain qu'il allait s'acheminer. Or, qu'est-ce qui justifie de faire du Dubois des âmes du peuple noir un hegelien alors que lui-même ne cite à aucun moment Hegel ? Plusieurs choses à vrai dire. Tout d'abord, dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, il écrit qu'après l'Égyptien et l'Indien, le Grec et le Romain, le Teuton et le Mongol, le Noir est une sorte de septième fils, né avec un voile. Disant cela, en fait, Dubois reprend une énumération qu'avait faite Hegel dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, en lui adjoignant à la liste de Hegel, et en lui adjoignant dans un geste qui est à la fois de reprise de la philosophie de l'histoire de Hegel, mais aussi de profonde subversion, en adjoignant un autre terme, le noir, originaire d'Afrique subsaharienne, le noir que Hegel avait précisément rejeté hors du concert des nations, hors de l'histoire. Deuxièmement, et ça prolonge ce que je disais tout à l'heure, on peut identifier aussi une source hegelienne à la métaphore du voile. Cette source, elle est à la fin du troisième chapitre de la phénoménologie de l'esprit, où l'on peut lire, et je ne vais pas vous assommer avec un commentaire philosophique, je vais couper la citation, ce rideau vorhang de l'apparence, ça c'est ce que dit Hegel, est ainsi levé sur l'intérieur, c'est la conscience de soi. Chez Hegel, en somme, la conscience du monde se découvre conscience de soi, et pas seulement conscience du monde extérieur, mais elle fait retour à soi quand elle lève le rideau, quand elle lève le voile des phénomènes, pour pénétrer à l'intérieur, dans le voile, où elle se retrouve face à elle-même. Ça, encore ici, ce sont des formules très proches de celles qu'allait employer Dubois presque un siècle plus tard. À la suite de cette fin du troisième chapitre de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, s'ouvre le quatrième, donc précisément intitulé « Conscience de soi ». Et souvenez-vous, Dubois disait que l'Amérique ne concède aucune véritable conscience de soi à l'Africain américain, donc chapitre qui contient la célèbre dialectique du maître et de l'esclave, qui n'était pas du tout célèbre à l'époque de Dubois, mais c'est une autre question. Alors, on peut relire le premier chapitre des âmes du peuple noir, et peut-être le livre entier, comme une sorte de réécriture de l'expérience de la conscience occidentale qu'avait retracé Hegel, et on peut le relire comme une sorte de phénoménologie de la conscience noire. Dans ce que j'ai qualifié d'expérience primitive du racisme, la scène du début avec la jeune fille blanche, on peut identifier l'expérience du déni de reconnaissance dans la lutte à mort entre les consciences dépeinte par Hegel et qui aboutit chez Hegel à la formation des figures du maître et de l'esclave. Quant à la double conscience, et c'est plus important, elle vient rejouer d'une certaine manière ce que Hegel nommait, à la fin de ce quatrième chapitre, Conscience de toi, ce que Hegel nommait la conscience malheureuse. Dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, le stade de la conscience malheureuse, c'est le moment de la naissance de la religion. C'est-à-dire, pour Hegel, c'est ce moment où l'esclave, qui a acquis la conscience de sa liberté intérieure, mais qui est encore incapable de briser les fers, de se libérer matériellement, c'est le moment où l'esclave intériorise le rapport de maîtrise et de servitude, un rapport de maîtrise et de servitude qui se reproduit au sein même de sa conscience, une conscience qui est scindée en deux. C'est ça la conscience malheureuse chez Hegel, c'est la conscience divisée en elle-même, la conscience maître et la conscience esclave. Enfin, la promesse chez Dubois d'une réconciliation des opposés, du noir et de l'américain en lui, ne peut manquer d'évoquer la chose la plus classique chez Hegel, qui est la synthèse dialectique des contraires. Comme le dit Chamoun Zamir, Dubois n'adopte pas Hegel, mais l'adapte à cette propre fin, celle de la lutte pour la reconnaissance des Noirs au sein de la société américaine. Bon, je me suis longtemps arrêté sur Hegel parce que je fais un travail sur les usages et les reprises marxistes, féministes et antiracistes de la dialectique maître-esclave au XXe siècle, enfin depuis 1932, qui est là. Bon. Les textes de Marcuse et de Kojève, mais j'arrête avec ça. Parce que je fais un semestre entier, mais je reviens à... Et Dubois est extrêmement original, puisqu'il n'y a personne qui fait ça avant Fanon, en fait, sinon, hein, c'est ce type de relecture de ces passages-là. Je reviens maintenant aux âmes du peuple noir pour examiner, sans exhaustive, hein, il y aurait beaucoup plus à en faire, comment s'y déploie, au-delà du premier chapitre, la triade conceptuelle, ligne de partage des couleurs, voile et double conscience. Il y a tout d'abord dans Les âmes du peuple noir une reprise des réflexions qu'avait initié Dubois à la période où il écrivait de Philadelphia Negro, dans le texte dont je vous ai parlé, réflexion sur la matérialisation spatiale et géographique de la ligne de couleur. Dubois relate ainsi dans le septième chapitre une traversée de la Black Belt, la ceinture noire. Vous savez ce que c'est sans doute, cette région du sud des États-Unis, terre d'esclavage sur les plantations de coton et encore peuplée à l'époque en écrasante majorité de noirs. Région à l'intérieur de laquelle certains, les communistes en particulier, pas seulement, allaient songer à fonder un État noir indépendant. Région dont le nom même de ceinture et les différentes couches qui la composent, comme on voit, parce que la ceinture a elle-même des territoires frontaliers, révèle bien encore la logique frontalière qui gouverne les rapports raciaux blanc-noir aux États-Unis. Vous voyez, c'est... Dubois, observant que la taille et la disposition des habitations d'un peuple constituent un critère fiable pour apprécier sa condition, fait cette remarque étonnante. Dubois dit ceci : « Je pense que je n'avais pas vraiment réalisé auparavant la place que tient la clôture dans notre civilisation. C'est ici la terre des sans-clôtures, où s'accroupissent de chaque côté de la route des rangées de cases faites d'une seule pièce, sale et sans joie. » et qui n'ont pas changé, dit-il ailleurs, depuis l'esclavage. Voilà. C'est là, continue-t-il, que gît le problème noir dans toute sa saleté, sa nudité et sa pénurie, et il n'y a pas de clôture. Fin de citation. Il n'y a pas de clôture parce que rien ici, aucune terre, n'est la propriété des Noirs et qu'ils n'ont rien à protéger. Or, Dubois, quand il dit ça, et c'est ce qui rend ces passages plus intéressants, enfin plus frappants encore, ignore quasiment tout de Marx et du marxisme, de Marx qui avait montré le rôle fondamental joué dans le développement du capitalisme par les politiques d'enclosure, les politiques de division par la force en Angleterre, des terres communes en parcelles privées. L'expropriation des paysans. Les Noirs du Sud, dit Dubois, n'ont jamais joui de cette liberté. Le tracé des limites, à commencer par celle de la propriété, a toujours été le privilège des Blancs. Au-delà de l'épaisse frontière de couleurs, les autres limites, les limites positives, en tout cas d'un certain point de vue, les limites qui servent à organiser la vie entre les hommes, sont abolies. On est sur la terre, comme il dit, des sans-clôtures. Dubois poursuit un peu plus loin son relevé topographique de la ligne de couleurs dans et en dehors de la ceinture noire. Il dit ceci, « Penchons-nous sur la géographie physique des habitations. Il est en général possible de tracer sur une carte, pour presque toutes les communautés du Sud, une ligne physique de partage des couleurs, délimitant d'un côté les quartiers blancs et de l'autre les quartiers noirs. » Et Dubois décrit les différents tracés possibles, ou comme il dit, les méandres et les dédales de la ligne de couleurs géographique. Soit elle traverse la ville ou le village par sa rue principale, soit elle encercle la ville blanche, entourée, dit-il, par une large bande de noirs, soit encore elle se divise en une multiplicité de lignes, délimitant l'espace de noyaux noirs au sein d'environnements blancs. Cette ségrégation par couleur, tient encore à préciser Dubois, est largement indépendante des regroupements naturels par catégorie sociale que l'on retrouve dans toutes les communautés. Au contraire, la ligne de couleur vient sans cesse perturber la ligne de partage des classes. Il prend des exemples, il dit « des taudis noirs peuvent se trouver à proximité des quartiers résidentiels blancs, des taudis blancs au cœur de districts noirs respectables. Par contre, sauf exception, confirmant la règle, je cite, « les meilleurs des noirs et les meilleurs des blancs ne vivent presque jamais à moins d'une certaine distance les unes des autres. » Cette topologie donne ainsi à voir, spatialement et dans toute sa complexité, la combinaison, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intersection, irréductible à toute identité, entre les facteurs de classe et les facteurs raciaux. Mais ce qui est indubitable pour Dubois, c'est que la ligne de partage, les lignes de partage entre les classes, y compris au sein de la population noire, sont beaucoup plus fluides, poreuses, que la ligne de partage entre les couleurs. Ces lignes de partage entre les classes, dit-il, je cite, ne sont en aucun cas fixées une fois pour toutes. On pourrait presque dire qu'elles fluctuent avec le cours du coton. Et on pourrait quasiment se représenter ce que dit Dubois ici. D'une manière géométrique, la ligne de couleur, ça serait une ligne inamovible, celle qui ne bouge pas, autour de laquelle pivote la ligne de partage des classes, engendrant, selon les angles créés et selon les situations, différents segments de population. Dubois insiste en outre sur le fait que le clivage qui existe entre les deux côtés de la ligne de couleur, entre l'intérieur et l'extérieur de ce qu'il appelle encore le voile de la race, n'empêche pas qu'il y ait entre les deux mondes des effets de miroir, que des problèmes communs se posent et que des changements parallèles s'y produisent à différents rythmes. Mais le problème, ajoute-t-il, c'est que les Blancs sont tellement habitués à voir dans le noir un tertium quid, une créature simple, clownesque, lorsqu'elle n'est pas menaçante. Ils sont tellement soucieux que les Noirs restent à leur place, à l'intérieur du voile, dit-il. Ils sont tellement affairés à construire autour des Noirs, je cite encore, des murs si hauts et à suspendre entre eux et la lumière un voile si épais, qu'il n'est, les Noirs, jamais l'idée de passer au travers. Qu'aujourd'hui comme autrefois, pour cette raison, je cite encore, se font face dans le Sud deux mondes séparés, séparés non seulement dans les hautes sphères des relations sociales, mais aussi à l'église et à l'école, dans les trains et les tramways. La séparation est si complète et si profonde que malgré, je le cite encore, de nombreux contacts physiques et des mélanges quotidiens, il n'y a presque aucune communauté de vie intellectuelle, aucun point de transfert où les pensées et les sentiments d'une race peuvent entrer en contact direct et en harmonie avec les pensées et les sentiments de l'autre. C'est là, sur le plan spirituel, sur le plan sensible et sur le plan intellectuel, que le voile de couleur produit ses effets les plus délétères. C'est là que le tracé de la ligne de couleur est le plus radical, dit-il, et où il n'accepte aucun compromis, interdisant toute reconnaissance d'une humanité commune et d'un destin commun. Alors même que ce tracé est en contradiction flagrante, dit-il encore, avec les croyances et les déclarations du peuple américain. La thèse de Dubois, c'est que le voile de couleur produit, pour ainsi dire, une double aliénation. Si elle enferme le noir dans une prison aux murs infranchissables, elle déforme tout aussi bien les aspirations et les idéaux des Blancs et les aspirations et les idéaux de l'Amérique elle-même. Dubois illustre cette tragédie, cette double tragédie, dans le 13e chapitre de son livre, le seul chapitre qui soit une fiction dans Les âmes du peuple noir, chapitre intitulé « Sur le retour de John », qui joue du trope de la dualité pour narrer l'histoire en miroir de deux John, un John blanc et un John noir, qui sont nés dans la même ville du Sud et qui étaient camarades d'enfance, mais qui ont été rapidement séparés par la division des deux mondes et qui vont connaître un destin étrangement parallèle, menant le premier à être tué et le second à être lynché. Toutes les analyses de Dubois dans Les âmes du peuple noir sont, pour ainsi dire, condensées dans le passage que je vais citer, enfin que je vais vous montrer encore une fois, qui réintroduit l'idée que la ligne de couleur est intériorisée et que cette ligne de couleur divise non seulement les noirs et les blancs entre eux, mais aussi les noirs intérieurement, l'idée donc de la double conscience. Dubois dit ceci, « Chaque noir américain doit vivre une double vie comme noir et comme américain. Sa confiance en lui ne peut qu'en être moralement ébranlée. Ne peuvent émerger qu'une conscience de soi douloureuse et un sens presque morbide de sa propre identité. Les mondes à l'intérieur et à l'extérieur du voile de couleur changent, et ils changent rapidement, mais pas au même rythme et pas dans le même sens. Et cela produit nécessairement un déchirement de l'âme très particulier. Une telle vie dédoublée, avec des pensées dédoublées, des devoirs dédoublés et des classes sociales dédoublées, donne inévitablement naissance à un langage dédoublé et à des idéaux dédoublés. L'esprit est tenté par les faux-semblants ou la révolte, par l'hypocrisie ou le radicalisme. Alors, comme je l'ai dit en début de séance, le terme de double conscience disparaît des écrits ultérieurs de Dubois. Ce qui n'est pas du tout le cas du concept métaphore de voile dont Dubois ne va jamais cesser de faire usage. Et on peut citer à cet égard son roman de 1911, The Quest of the Silver Fleece, La quête de la toison d'argent. Roman qui raconte l'histoire de deux jeunes Africains-Américains, un garçon et une fille, dans une ville imaginaire de l'Alabama nommée Tomb County à la fin du 19e siècle. Et où la toison d'argent désigne le coton, dont la vie des Noirs et leur progrès social continuent de dépendre bien longtemps après l'esclavage. Le roman met également en scène un couple blanc, Mr. et Madame Taylor, et on peut, à propos de cette dernière, Madame Taylor, on peut lire la chose suivante. Je cite, « Elle était là depuis 4 mois, et pourtant, à tout instant jusqu'à maintenant, elle semblait avoir été vivement et presque douloureusement consciente qu'elle était une femme blanche parlant à des gens noirs. Avant, elle avait toujours été séparée de ces gens par un voile. Qui avait posé le voile ici? En avait-elle elle-même revêtu son âme? Ou s'étaient-ils, les Noirs, cachés timidement derrière son autre face, l'autre face du voile? Ou alors, était-ce un simple fait brut, indépendant d'elle comme d'eux? Ces quelques lignes, j'ai cité ces quelques lignes, car elles révèlent un aspect capital de la division raciale, révèle le fait que l'origine de la division raciale, l'origine de la ligne de couleur est raturée et barrée de telle manière qu'elle ne semble ne plus avoir eu de commencement historique et de commencement contingent. Elle a été de cette manière-là naturalisée. C'est le fruit de processus si commun de naturalisation de la domination qui vise à rendre vaine toute résistance, mais dont on voit ici que cette naturalisation de la domination, cet effacement de ses origines historiques, peut affecter et tromper les dominants eux-mêmes, pris à leur propre piège, dominés par les monstrueuses institutions qu'ils ont mis en place et contre lesquelles la bonne volonté, celle de Madame Taylor en l'occurrence, est tout à fait impuissante. On pourrait également citer l'ouvrage de 1920 de Dubois, Dark Water, dont le sous-titre « Voices from within the veil », « Les voix depuis l'intérieur du voile », qui préfigure, enfin un titre qui pourrait préfigurer de très longue date, le thème postcolonial de la voix des subalternes. Ce titre suffit à montrer le rôle central que continue à jouer dans ce texte, la métaphore du voile. Mais si je cite cet ouvrage, c'est aussi pour une autre raison, c'est qu'on y retrouve un essai intitulé « The Souls of White Folk », « Les âmes du peuple blanc », référence bien sûr à l'ouvrage de 1903 « Les âmes du peuple noir », essai qui nous oblige à nuancer l'apparente disparition, sinon du terme, du moins du concept de double conscience. Ce que montre en effet Dubois dans cet essai, c'est que la double conscience est certes une expérience douloureuse, une expérience malheureuse, qui devra à un moment ou à un autre, céder la place à une unification de la conscience noire et américaine, à l'abolition de sa frontière intérieure. Mais pour autant, cet article va montrer, c'est là-dessus que je vais présenter les derniers développements, va montrer que pour Dubois, la double conscience n'est pas une expérience purement négative. Dubois écrit ceci. À leur égard, les Blancs, je suis singulièrement clairvoyant. Je vois en eux et à travers eux. je vois depuis un inhabituel point de vue privilégié. Je vois ces âmes nues, les âmes du peuple blanc, je vois ces âmes nues et des deux côtés. Je vois le travail de leur entraille, je connais leurs pensées et ils savent que je sais. Autrement dit, ici, l'intériorisation du regard du blanc, bien qu'elle déforme la conscience noire et la rend étranger à elle-même, lui confère cependant une clairvoyance dont la conscience blanche est privée. Car du fait même de cette intériorisation, le noir comprend dès lors le point de vue du blanc, bien mieux que ce dernier comprend le point de vue du noir qui reste dissimulé derrière le voile. Mais Dubois, thème qu'on peut retrouver dans la littérature féministe et ailleurs, hein, le dominé connaît bien mieux le dominant que le dominant connaît le dominé. Mais en fait, Dubois dit plus que cela ici. Il dit qu'à certains égards, le noir connaît mieux le blanc que ce dernier se connaît lui-même. Car le noir est capable de comprendre les ressorts profonds de ce que Dubois appelle déjà la religion de la blancheur, l'idéologie de la suprématie blanche. Il la comprend mieux que celui qui l'a conçue afin d'asseoir sa domination. Dubois dit ceci, « Nous, les Noirs, qui avons éprouvé la honte, l'humiliation et l'insulte profonde que l'autoglorification du blanc impliquait si souvent, on pourrait sans doute mieux traduire que ce que je viens de faire, nous, les Noirs, n'avons jamais été abusés. Nous le regardions, le blanc, avec clarté, avec des yeux vieux comme le monde, et ne voyions qu'un simple homme faible, pitoyable et cruel. La double conscience, fin de citation, la double conscience, tout en étant une forme d'aliénation, confère donc aussi un avantage épistémique, un avantage sur le plan de la connaissance, à l'opprimé sur son oppresseur. Et par là même, elle peut se révéler être un instrument essentiel de résistance. Car seul l'opprimé est capable de voir la situation de domination des deux côtés, de son propre point de vue et du point de vue du dominant. Il est donc le seul à être capable d'en prendre conscience dans sa totalité. Là où le blanc est condamné, et s'est condamné lui-même, selon Dubois, à avoir une perspective partielle et partiale. Il ne voit que depuis son propre point de vue. Thèse qui pourrait faire écho à une certaine littérature marxiste, chez Marx et chez Lukács, dans Histoire et conscience de classe, dans la thèse du point de vue du prolétariat. Point de vue du prolétariat chez Lukács et le point de vue qui donne aussi accès à la totalité des relations sociales. On aura un peu la même idée ici chez Dubois avec le point de vue du noir qui donne accès, le seul qui donne accès à une vision de la totalité des rapports raciaux. En tout cas, cette vision-là, c'est ce que certains interprètes et représentants de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie africana ou la philosophie afro-caribéenne, des philosophes comme Paget Henry ou Lewis Gordon, ont nommé « potentiated double consciousness », qu'on peut traduire peut-être assez mal et peut-être qu'on pourrait faire mieux, c'est pour ça que je l'ai d'abord cité en anglais, par « double conscience potentialisée ». Or, cette perspective énoncée dans les âmes du peuple blanc était déjà présente en fait, mais présente en filigrane, dans les âmes du peuple noir, dans l'idée que la double vue était paradoxalement un « gift », un don fait au noir. En fait, idée qu'on ne retrouve pas, qu'on ne retrouve que dans la version anglaise, parce qu'elle disparaît de la version française qui traduit ce gift de la double vue par le noir est doué de double vue. La double conscience opère en fait aussi dans les âmes du peuple noir comme un mécanisme de défense contre l'oppression raciale. Cette dualité, cette division intérieure, c'est aussi ce qui permet au noir, fût-ce au prix de souffrance, de ne pas sombrer dans l'abjection attachée à sa race, sans pour autant être absorbé, sans pour autant être phagocyté par le monde blanc. C'est une solution insatisfaisante, certes, mais c'est la seule solution qui puisse encore préserver la possibilité de l'unification future de son être noir et de son être américain. Enfin, comme l'a montré Magali Besson dans sa postface aux âmes du peuple noir, le schème binaire nourrit en fait la stratégie narrative critique de Dubois lui-même dans le livre. Il y a dans le livre, dans les âmes du peuple noir, dit Besson, une dualité globale de structure imposée par la dualité des mondes et la ségrégation de faits et qui permet à Dubois de naviguer d'un point de vue à l'autre, d'explorer le monde noir puis le monde blanc qu'il connaissait très bien et d'explorer ensuite la frontière qui les sépare. Et en fait, j'ai pas tout en tête, mais Magali Besson et d'autres ont identifié ce jeu qui se surimposerait à une structure ternaire du livre, mais ce jeu binaire qui permet à Dubois de passer en permanence d'un point de vue à l'autre. La double conscience, dont il faut noter qu'elle affecte avant tout, sinon exclusivement pour Dubois, les noirs éduqués, le dixième talentueux, comme il appelle ça, la double conscience, elle n'est donc plus synonyme uniquement d'emprisonnement à l'intérieur du voile. C'est aussi, et au contraire, un instrument de passage ou de transgression de la frontière de couleur. La romancière et essayiste Toni Morrison l'a exprimé de la manière peut-être la plus claire qui soit. Elle a dit « L'observation de W.E.B. Du Bois à propos de la double conscience est une stratégie, non une prophétie ou une cure. » Alors bien que je ne crois pas qu'on puisse réduire la double conscience chez Dubois à cette seule dimension stratégique, dans la mesure où ce que dit Dubois de la double conscience a aussi une valeur descriptive et une valeur de diagnostic, il me semble néanmoins qu'elle peut en effet définir la stratégie rhétorique, la stratégie théorique et politique de Dubois dans Les âmes du peuple noir et bien après Les âmes du peuple noir. Pour ne donner qu'un exemple, son grand ouvrage, celui de son grand ouvrage historique, Black Reconstruction in America, dans lequel Dubois s'attache à écrire une contre-histoire de la guerre de sécession et de la reconstruction, une contre-histoire du point de vue des Noirs, qui prend la forme quasi d'un contrepoint au sens quasi musical permanent au point de vue hégémonique des historiens blancs. Point de vue des historiens blancs dont Dubois analyse les ressorts profonds, les ressorts politiques et psychologiques, et dont il déconstruit méthodiquement les thèses dans l'ultime chapitre intitulé « La propagande de l'histoire » qui va être traduit en... qui est peut-être déjà disponible en ligne pour une anthologie des historiens africains-américains à laquelle on a travaillé avec des collègues de Paris 13, Paris 7 et Paris-Sorbonne, qui est sur le site des éditions Terra, anthologie d'historiens africains-américains accompagnée de notices. Et donc ce dernier chapitre des âmes du peuple noir a été traduit. C'est vraiment un travail bien avant tous les travaux, on peut dire bien plus tardifs sur la déconstruction du discours racial ou du discours colonial. Ça, c'est exactement ça, c'est déconstruire tout le discours de l'historiographie blanche sur la guerre de sécession et ses suites. Dubois montre dans ce texte comment la dualité induite par la ligne de couleur opère en fait à l'intérieur même de la production de connaissances et empêche l'avènement de la vérité. Il le dit dans ces termes notamment, nous n'aurons jamais de science historique tant que nous n'aurons pas dans nos universités des hommes qui privilégient la vérité à la défense de la race blanche. La double conscience dans ce texte-là devient le nom, bon, pas utilisé par Dubois, mais le nom même de la production d'un contre-savoir qui vient non pas tant abolir les frontières raciaux épistémiques qu'en subvertir le fonctionnement à travers, encore une fois, un jeu de va-et-vient entre les deux mondes. Tout cela, et je vais conclure ici, nous engage à reconsidérer la signification non seulement du concept de double conscience, mais aussi celui du concept ou métaphore de voile chez Dubois. Tout comme la double conscience n'est pas seulement une expérience négative, une expérience aliénante, mais aussi une forme de défense et même une forme de résistance, il est possible que le voile ait lui aussi des fonctions stratégiques et critiques à remplir. Si dans Les âmes du peuple noir, Dubois on appelle avant tout à lever le voile de couleur, à le déchirer, il semble qu'il ait ensuite remis en cause cet objectif, qui avait des accents bibliques, je l'ai dit, non, qu'il l'ait remis en cause non pas en lui-même pour l'idéal de réconciliation entre les races dont il était porteur, mais du fait de son caractère illusoire, irréalisable, dans une société qui était encore si fortement structurée racialement. Dubois était devenu de plus en plus sceptique, en fait, à l'idée que la ligne de couleur aux États-Unis pourrait être purement et simplement abolie, déchirée d'un coup, immédiatement, pour donner lieu à une véritable reconnaissance, à une égalité raciale. Profondément critique des politiques intégrationnistes, Du Boile est finalement considéré que le voile ne faisait pas que confiner et exclure la population noire, mais que le voile permettait également de la protéger de certaines formes de violence et de domination. En d'autres termes, au lieu de subir les effets du voile, il fallait aussi apprendre à se saisir de ses ambiguïtés et de ses contradictions, à faire usage de la flexibilité politique du voile pour retourner les armes de l'oppresseur contre ces derniers. Maintenir la ligne de partage de couleurs et la retracer autrement, revendiquer stratégiquement la différence raciale en tant que produit socio-historique, devait aussi permettre de redéfinir les lignes de conflit, les lignes de division, sans laquelle, Du Boile le savait, il n'y a pas de politique, et les redéfinir contre toute forme d'accommodement, toute forme d'acceptation ou toute forme de cooptation par le monde blanc. C'est donc sur la frontière raciale elle-même que le combat devait être mené. Juste un dernier mot, d'actualité. Si la situation de la France postcoloniale est évidemment bien éloignée de celle des États-Unis de Jim Crow, les États-Unis de la ségrégation, je crois qu'il y a encore beaucoup à apprendre des contre-savoirs de la race forgés au XXe siècle, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, des appropriations et transformations de la notion de race dans la lutte contre le racisme. Il nous faut encore retracer ce que j'appelais au début de ma présentation une contre-généalogie de la race. Je vous remercie pour votre attention.